Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondybloccentre.fr.
Bondy Blog Café. Bondy Blog Café.
Rejoins la rédaction
www.bondybloccentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anissa Naïli. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Lutetia à Orléans dans le cadre d'un Bondy Blog Centre Café, une émission réalisée par Daniel Begdad. Nous accueillons Christophe Chaillon, maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle et conseiller départemental en charge du développement des territoires de la culture et du patrimoine. Bonjour Monsieur Chaillon.
Bonjour.
Cette interview sera menée par Hassan Kerim, journaliste pour le Bondy Blog Centre et des représentants du monde associatif. Nous aborderons les sujets suivants, la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle et vos projets pour celle-ci, la politique et l'actualité. Nous commençons tout de suite avec une question d'actualité avec Hassan Kerim.
Christophe Chaillou, le grand sujet d'actualité en France, c'est le mouvement dit des Gilets jaunes et le grand débat voulu par le président de la République. Un débat dont il vous a confié, vous, maire de France, une partie du pilotage. D'abord, la première question, c'est à Saint-Jean-de-la-Ruelle, qu'est-ce que vous allez faire concrètement ?
Ben d'abord, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que toute cette situation est un peu surprenante parce que ça fait un moment où on nous explique que les communes sont finalement un peu des obstacles pour avancer, que nous coûtons cher, on nous réduit nos moyens. Mais enfin, il faut être honnête, ça ne date pas d'hier. Hein. C'est une tendance qui s'est inscrite ces dernières années. On nous méprise, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une campagne hashtag balance ton maire, et puis tout à coup on redécouvre qu'on a finalement une utilité et que les communes peuvent aussi dans cette période jouer un rôle important. Donc moi là-dessus les choses sont claires, moi j'ai pas vocation à être le facteur de monsieur Macron, c'est-à-dire que bah, c'est vrai quoi, on n'est pas là pour transmettre des messages. Par contre, s'il y a des initiatives qui vise à organiser un débat ou des débats et des échanges, bien évidemment, la commune facilitera. Mais elle facilitera, et d'ailleurs, elle y participera. Mais moi, je rappellerai aussi les limites des choses. C'est-à-dire que tout ce qui relève des compétences municipales, moi, je suis en mesure d'apporter des réponses. Alors, positives ou pas positives. Mais l'essentiel qui relève du débat aujourd'hui, c'est plutôt des choses nationales. Et donc, là-dessus... on ne veut pas être pris aussi dans un piège où, finalement, on devrait porter des choses qui ne sont pas de notre responsabilité. Par ailleurs, je dois dire que moi, je suis un peu gêné parce qu'on a eu hier le deuxième débat entre le président et des maires. Je ne suis pas sûr que c'est ce que les Français attendent. Je pense qu'aujourd'hui, le malaise, il est avec une partie de nos concitoyens. Et de réunir des maires pour un show, parce qu'en fait, c'est un show, hein, 6h30, 6h40... avec beaucoup de com, je suis un peu mal à l'aise. Et je sais que beaucoup de gens, aujourd'hui, commencent à se demander... on a un peu l'impression d'être dans une tournée américaine, là, d'un showman, dans une sorte de campagne électorale. C'est un peu bizarre, tout ça. Mais, encore une fois, je pense qu'il y a un besoin de dialogue, de débat avec les citoyens. D'ailleurs, je dois vous être honnête, hein, il y a un certain nombre de citoyens de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui déjà m'ont demandé, mais c'est quand et c'est où? Donc il y a quelque chose, hein, donc, bien évidemment, mais on n'a pas l'intention d'animer, de piloter tout ça. On facilitera, bien évidemment.
Mais au fond, vous avez un point de vue sur ce mouvement qui est inédit par son ampleur, par sa durée?
Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore très, très difficile d'analyser l'ensemble des facteurs qui expliquent, et même d'avoir une opinion sur ce mouvement, parce que très honnêtement, je crois qu'il faut le dire, on a tous été très surpris de l'émergence de ce mouvement. On est aussi, il faut le dire, très, très mal à l'aise par rapport d'abord aux formes que ça prend et puis aux revendications qui sont quand même très, très différentes et parfois très contradictoires. C'est-à-dire qu'on nous dit d'un côté, on veut payer moins d'impôts, moins de taxes, et puis d'un autre côté, on dit, nous, on veut encore plus pour nous, quoi. Et puis, y a des aspects qui sont des aspects qu'on entend pleinement et que moi j'entends pleinement, notamment la question du pouvoir d'achat, la question des difficultés de vie d'un certain nombre de familles. Puis il y a d'autres sujets sur lesquels moi je suis plus mal à l'aise, et puis aussi des sujets sur lesquels je suis en total désaccord. C'est-à-dire que dans ce mouvement, il y a un certain nombre d'idées qui sont véhiculées aussi sur le rôle de l'impôt, sur le rôle de la République, sur la coexistence entre les uns et les autres. Voilà, il y a des choses. Donc, pour l'instant, je pense qu'on a beaucoup de difficultés à se situer par rapport à ça. La seule chose que moi qui me paraît évidente, c'est que c'est le reflet d'un malaise très important et d'un éloignement très important entre, on va dire, le système et beaucoup de citoyens. Et quand je dis le système, c'est tout le monde. Et là-dessus, très honnêtement, moi, j'ai toujours incité tout le monde à beaucoup de prudence, parce que je pense que, certes, il y a une méfiance importante par rapport au président de la République, et je crois qu'il l'a un peu cherché, mais ça va plus loin que ça. Et moi, je le vois bien, même dans une commune comme la mienne, il y a de plus en plus de gens qui s'interrogent sur à quoi on sert, quelle est l'utilité. Et il y a une distance, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que, y compris leurs décideurs qui sont les plus proches, sont un élément du système global et n'écoutent pas ce que disent les citoyens. Et puis une autre réalité, je terminerai là-dessus, c'est que ce n'est pas propre à la France. Donc on voit un peu partout en ce moment, ça dysfonctionne, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous regardez la situation dans les pays d'Europe centrale orientale, enfin, ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, ce qui se passe en Pologne, ça nous interroge. Ce qui se passe en Italie, où vous avez une alliance entre l'extrême droite et puis un mouvement 5 étoiles anti-système. Ce qui vient de se passer en Andalousie, qui est quand même, bon, dans un pays qui a connu la dictature il n'y a pas si longtemps que ça, une alliance qui permet à l'extrême droite d'avoir de l'influence. Ce qui se passe en Angleterre en ce moment, enfin, vous voyez, un peu partout, sans parler de l'Amérique, sans parler de la Russie, etc. On est aujourd'hui vraiment dans une situation où on a le sentiment que ce qui apparaissait comme quelque chose d'établi, de rationnel, d'organisé, toutes les bases sont en train d'être mises en cause aujourd'hui. Et avec des citoyens qui ne se sentent plus représentés par, aujourd'hui, notamment les partis politiques et un certain nombre de leurs élus. Et donc, très honnêtement, ça doit nous interroger profondément.
Bonjour.
Bonjour.
J'avais une question par rapport à ce que vous disiez. Oui, donc j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Shadrach de l'association For You. Alors, l'association For You, brièvement, c'est une association qui a pour objet social l'éducation et le développement. Actuellement, on fait deux projets, le projet BAL2 et le dernier round. Le projet BAL2, c'est une action humanitaire où on distribue tous les mois de la nourriture aux familles en besoin. Et le dernier round, c'est un débat sous une forme atypique, sous une forme de combat de boxe. Tout simplement. Donc, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit par rapport au fait que les gens ne se sentent pas représentés. J'avais une question directe. Est-ce que vous croyez à la démocratie représentative ?
Moi, j'y crois profondément. D'abord, parce que je pense que le mouvement qui a été celui de nos sociétés au cours de ces derniers siècles a toujours été vers l'affirmation de l'égale dignité des citoyens et des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on est passé progressivement, alors pas au même rythme partout, mais globalement quand même, et notamment en Europe, on est passé d'un système où il y avait un roi divin qui décidait de tout, après un système où il y avait une caste des bourgeoisies qui décidait. On est arrivé jusqu'à cette idée magnifique qui est celle du suffrage universel, qui est de dire que finalement, il faut que les uns et les autres, on puisse décider et que chacun a la même dignité et donc a le pouvoir de décider de son avenir. Et que la meilleure façon de régler les questions de vie en communauté, c'est pas par la force ou c'est pas par la violence, c'est simplement par le vote. Et ça, il a fallu des siècles. Alors dans notre pays, ça remonte à la Révolution française, même si c'était inachevé, parce qu'après, il a fallu encore longtemps pour que notamment les femmes puissent voter. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus récent. Je rappelle quand même que c'est pas si vieux que ça. Dans certains pays, il y avait ce qu'on appelle l'apartheid, qui faisait qu'y compris on excluait une partie de la population en raison de ses origines. Et puis d'autres systèmes où on voit bien que cette idée de la démocratie a été plus difficile. Quand on regarde même en Europe, la chute du mur de Berlin, c'est pas si vieux. Et voilà, petit à petit, c'est un système qui s'est imposé. Mais Dans le même temps, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, et moi j'entends un certain nombre de choses autour de moi, l'idée même de démocratie qui pour une génération comme la mienne était un principe de base essentiel acquis, aujourd'hui n'est plus forcément une certitude. Parce que, pour certains, la démocratie serait comme un peu, je dirais, captée par une nouvelle caste, en fait, notamment des partis politiques traditionnels ou d'un certain nombre de représentants. Il y a ce sentiment dans une partie de la population que, quelque part, les médias, aujourd'hui, un certain nombre de médias influencent. Et puis, aujourd'hui aussi, pour une partie de la société, il y a un certain nombre de sujets qui n'existaient pas forcément dans le débat politique classique et sur lesquels un certain nombre de citoyens aujourd'hui ne sont pas prêts à faire des compromis. La démocratie, ça veut dire un compromis, ça veut dire qu'il y a une majorité qui, à un moment donné, décide pour tout le monde. Et aujourd'hui, il y a une partie des citoyens qui disent bah, « moi, je ne me reconnais pas dans cette majorité et je n'accepte pas ce principe de base ». Alors c'est profondément perturbateur pour des générations comme les miennes qui ont toujours vécu sur ce principe que ce qui était important, c'était l'élection, la démocratie, la campagne électorale, le débat, et qui, pour nous, qui pensons que finalement la meilleure des solutions, c'est quand même à un moment donné de voter, d'élire des représentants qui vont s'exprimer en notre nom. Pour ça, pour moi, je suis profondément attaché à la démocratie représentative. Mais aujourd'hui, que les choses soient claires, j'ai le sentiment qu'effectivement, c'est incomplet. Parce que, d'abord, il y a une partie des citoyens qui ne se sentent pas représentés. Et puis, je pense que ça ne donne pas suffisamment la place à l'initiative des citoyens. Et c'est ça, le problème. On est, d'autre part, dans un système où, par exemple, aujourd'hui, on voit bien que les États eux-mêmes, ils ont beaucoup de difficultés à convaincre qu'ils ont aujourd'hui la capacité de décider. En Europe, il y a l'Union européenne, il y a l'économie mondiale. Et donc, il y a un certain nombre de citoyens qui se disent « Oui, mais vous nous parlez de démocratie représentative, mais à quoi vous servez quoi ? Parce que de toute façon, vous nous expliquez qu'il n'y a pas d'autre choix que telle ou telle chose. » Et donc, je crois que c'est ça qui explique le malaise. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas valable uniquement au niveau national. Je pense qu'au niveau local, moi, je m'aperçois qu'aussi, une partie des citoyens ne se sentent plus aujourd'hui complètement représentés par leurs élus, leurs maires, etc. Et qu'ils... Ils se sentent un peu dépossédés et donc exclus de plus en plus du système qui, à leurs yeux, ne les représente pas suffisamment. Et vous voyez, par exemple, dans la façon de s'exprimer d'un certain nombre de gens dans le mouvement des Gilets jaunes, leur réaction par rapport à des prises de position, par exemple, du gouvernement, illustre ça. Les gens ont eu le sentiment d'être rejetés, méprisés et parfois même humiliés. Des mots qui ont été dits, des paroles, des attitudes, fait que les gens se sont un peu, entre guillemets, radicalisés parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été respectés, qu'il n'y a pas eu le respect de leur dignité. Et ça, ça doit nous interroger.
Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Mm-hmm. Et donc, justement, un maire, est-ce qu'il est considéré comme le représentant de la population, par exemple, vous, de Saint-Jean-de-la-Ruelle ? Mm-hmm. Vous êtes reconnu comme le représentant.
Oui, d'ailleurs, quand vous regardez globalement les sondages, même s'il faut être prudent, aujourd'hui, les maires restent en France les personnages publics qui restent les plus appréciés des citoyens, globalement. Même s'il y a une réalité.
C'est peut-être pour ça que le président de la République.
C'est peut-être pour ça que le président de la République vous envoie en première ligne.
Bien évidemment, nous redécouvre en tout cas. Et donc, mais il y a une réalité aussi. Quand vous regardez les mêmes sondages, ça a diminué aussi pour les maires. C'est-à-dire qu'on était dans une période, il y a 20 ans, 25 ans, où on était on était à 80% de confiance vis-à-vis des maires. On est aujourd'hui à 60%. Ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'on reste parmi ceux qui sont les plus respectés et en qui on a confiance. Mais nous aussi, les maires, on a cela. Parce que on subit, nous, le même type de réaction. Les gens ont le sentiment que même les décisions qu'on prend localement ne sont pas toujours suffisamment expliquées, justifiées. Et puis, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a une partie des citoyens qui, aujourd'hui, n'acceptent pas, par principe, certaines décisions et le remettent en cause. C'est-à-dire parce que, moi, je vois bien, même dans ma commune, des gens qui viennent me dire « mais je ne suis pas d'accord ». Et quand j'essaie d'expliquer pourquoi on a pris cette décision, le fait que il y a des lois qui existent, qu'on est là pour appliquer la loi, qu'on ne peut pas faire d'exception par rapport... on dit, ben oui, mais de toute façon, vous, vous défendez le système, c'est bien connu, et de toute façon, moi, j'ai lu sur Internet, c'est pas vrai ce que vous me dites, on peut faire autrement. Vous savez, il y a aujourd'hui des gens qui ont des idées un peu farfelues, quoi, hein, des gens qui disent, mais il faut que vous interdisiez tel type d'activité commerciale dans la ville. Il faut que vous interdisiez tel type de tenue dans la ville, de tenue vestimentaire. Moi, une dame qui est venue complètement excitée me dire, il faut interdire le foulard parce que je ne supporte plus de voir... et c'est votre rôle. Je dis, c'est pas du tout mon rôle. Enfin, donc, il y a un peu cette idée qu'aujourd'hui, les gens ne se reconnaissent pas pleinement. Mais ça exprime aussi beaucoup de malaise. Il y a beaucoup de malaise aussi dans la société aujourd'hui. Mais quand même, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans une ville comme la nôtre, hein, une ville très populaire, le maire reste quand même le point de référence. Alors, on n'est pas toujours d'accord avec lui, on s'engueule, mais au moins nous, on est à portée d'engueulade. On peut nous dire, voilà, en nous croisant la rue, on dit, voilà, j'en ai marre de tes histoires, tes conneries, moi, je m'en fous. Mais les gens nous le disent, et parfois violemment. Mais au moins, on est là. Et puis on est là pour encaisser. Puis il y a une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, on joue un rôle que jouait avant... par exemple, un curé dans une ville, quoi. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais voyez, moi, tous les samedis matin, je reçois beaucoup de gens à la mairie, tous les samedis, samedi après samedi. Et je me rends compte d'une chose, c'est que dans la relation qu'ils ont avec leur maire, il y a parfois, je vois en face de moi des gens qui sont en détresse, mais aussi beaucoup de gens très seuls. Ils sont seuls, ils n'ont personne à qui parler. Il m'arrive parfois d'avoir des rendez-vous où les gens viennent me parler de leurs problèmes personnels, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec les institutions, leurs problèmes parfois de santé. Et même parfois, quand je reçois des gens, au bout d'un moment, je leur dis « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils me disent « Non, mais je voulais simplement vous parler. » Et je crois qu'aujourd'hui, ça exprime le malaise dans cette société, hein, les gens. Voilà. Donc, malgré tout, je pense que les maires, et c'est sans doute pour ça qu'effectivement le président de la République redécouvre qu'on a quelque utilité en ce moment, parce qu'on est une sorte de référence. Et encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec nous, les gens reconnaissent. Et puis, il y a encore une très large forme de respect spontané. Moi, je suis très surpris de ça, et j'apprécie, bien sûr, mais globalement, les citoyens, il y a quand même une grande phase de respect. On est très connu, ça c'est une réalité aussi, quoi. On est connu, et voilà, c'est quelque chose qui est important aussi d'avoir ce lien de confiance.
Vous faites partie d'une grande famille politique, le Parti Socialiste.
Oui.
C'est quoi être socialiste aujourd'hui ?
Alors, d'abord, moi j'appartiens à ce qu'on appelle la social-démocratie, donc un grand mouvement de pensée qui a joué un rôle important au 19e et surtout au 20e siècle. Avec notamment en France, avec des très grandes conquêtes sociales, avec des gens qui ont, au cours des années, porté avec le Front populaire, avec la Libération, avec François Mitterrand, et qui ont porté un certain nombre de réformes, avec Lionel Jospin aussi et François Hollande, et un mouvement qui s'est toujours inscrit dans une sorte de compromis entre, d'un côté, la nécessité de la justice sociale, du progrès, du respect des uns et des autres, de la coexistence, de la cohabitation, et puis dans le même temps l'acceptation que voilà, on est dans une société de marché et qu'il faut qu'on est dans un système capitaliste, et donc qui ne s'est pas inscrit dans une remise en cause, mais plutôt d'essayer à chaque fois de faire progresser, d'avoir des réformes dans le compromis. C'est un grand mouvement politique qui a eu des conquêtes formidables en France comme en Europe, comme dans le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que dans une société qui a beaucoup changé, le message que porte la social-démocratie est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, c'est vrai que ça apparaît pour certains comme le compromis apparaît comme de la compromission. Donc certains nous reprochent d'être trop dans la compromission, par exemple, au capitalisme, hein, avec une partie de l'opinion, notamment à gauche, qui estime que, notamment sur la question... des règles du marché, de la concurrence, etc. Nous sommes des traîtres, finalement. Et puis,
Comment ? C'est pas faux.
C'est pas faux à partir du moment où on accepte le principe qu'on est dans une économie de marché et qu'il y a des règles qui s'imposent et qu'il faut essayer de se battre pour améliorer les choses. Mais vous savez, moi j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui prônent des très grandes idées et la révolution. Mais moi, si vous voulez, quand je vois dans l'histoire ce que ça a apporté, j'ai tendance à être prudent. Puis quand je vois qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens qui nous font les leçons, je pense par exemple à M. Mélenchon, quoi. Il a soutenu quand même ce qui se passait au Venezuela, quoi. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il était sur les tribunes au Venezuela il y a 2-3 ans. Je ne suis pas certain que les habitants du Venezuela aujourd'hui sont très contents de la situation dans leur pays. Donc si vous voulez, moi je veux bien les grands discours, mais aussi je regarde ce qui est la réalité des choses. Je regarde aussi en Grèce. C'est intéressant ce qui s'est passé en Grèce. Il y a M. Tsipras avec Syriza, qui était un grand copain à l'époque de Mélenchon, qui disait « on va tout casser », etc. Bon, en Grèce, bah, voilà, il y a des réalités qui sont imposées. Et M. Tsipras, qui est toujours au pouvoir, il est sur une ligne qui est quand même une ligne qui est plutôt proche de ce qui se mène aujourd'hui dans la plupart des pays. D'ailleurs, je crois qu'il est en rupture avec M. Mélenchon. Donc, si vous voulez, voilà, il y a la réalité qui doit s'imposer. Et puis, il y a aussi une autre réalité. C'est que je pense que la social-démocratie, elle n'a pas suffisamment su s'adapter à un fait important qui existe dans toutes les sociétés occidentales, mais même plus largement, je crois, c'est aujourd'hui la question de l'individualisme. C'est-à-dire que la social-démocratie, par principe, comme le mouvement ouvrier, comme la gauche, s'appuyait sur l'action collective. C'est-à-dire qu'on défendait, on y allait ensemble, etc. Aujourd'hui, et ça explique une partie du mouvement des Gilets jaunes, les gens disent, regardent leur situation. Ce qui compte, c'est moi. Et donc, moi, les autres, je m'en fous. Et c'est ça qui me gêne dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est quand on dit, ben, moi, je veux gagner plus d'argent, ce que je respecte, mais les autres, je m'en fous, quoi. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi un troisième défi auquel la démocratie fait face et sur lequel elle a beaucoup de mal, c'est la question nationale. Et ça, je sais que c'est un sujet délicat, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a, on pensait, enfin, ma génération, notamment, qui est une génération profondément européenne, internationaliste, ouverte sur les autres. On pensait que ça y est, on avait atteint un niveau où on était, voilà, où la question nationale était derrière nous. Moi, je reste toujours à cette grande phrase de Mitterrand à Strasbourg, le nationalisme, c'est la guerre, quoi. Et c'est vrai que c'est de dire, on exacerbe les tensions entre les gens, on incite au conflit parce que, voilà, on vit là-dessus, quoi. Et donc, par principe, moi, le nationalisme, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas. Et on pensait qu'en Europe, avec la construction européenne, etc., on était guéri par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même une réalité. C'est quand vous regardez ce qui se passe en Europe centrale et orientale, quand vous regardez ce qui se passe en Italie, quand vous regardez dans un ensemble de pays, mais y compris en France, aujourd'hui, il y a un ensemble de citoyens qui estiment que leur identité, leurs valeurs, leurs croyances n'est plus protégée et qu'ils ont la peur... qu'on leur impose un modèle. Regardez tout ce qui se circule sur le net, quoi. C'est une horreur, quoi. Dans 2 jours, Macron va signer avec Merkel un nouveau traité entre la France et l'Allemagne. Vous regardez sur Internet ce qui circule, c'est l'horreur. Il y a des gens qui disent qu'on va rendre la Lorraine aux Allemands, qu'on va être... Non, mais... Et donc, et moi, je suis surpris d'une chose aussi, c'est que parmi les plus jeunes, notamment... Il y a quelque part ce sentiment de dire aujourd'hui, on n'est plus français. Et je crois que nous, la social-démocratie, elle a beaucoup de mal avec ça. Et puis, se greffe à ça la question, bien évidemment, de l'immigration, la question notamment des réfugiés, etc. Et on voit bien que ça correspond à la même période, tout ça, quoi. Tous ces trucs-là, ça s'agrège à ce qui s'est passé en Allemagne, l'arrivée des réfugiés, tout ça. Ce qui se passe en Italie, c'est ça. Voilà, ce qui se passe en Espagne. C'est ça, quoi. Enfin, faut pas se faire d'illusions. Pourquoi en Andalousie, tout à coup, on se met à voter à 10% pour l'extrême droite? Bah, parce que aujourd'hui, les réfugiés, ils peuvent plus rentrer en Italie, donc ils rentrent en Espagne, ils rentrent par l'Andalousie. Donc voilà, il y a tout ça. Et je pense qu'effectivement, la social-démocratie, elle a, qui a correspondu à une sorte de grand compromis, aujourd'hui, ses bases sont très fragiles. Et puis, il y a eu le hold-up Macron en France, quoi. Enfin, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'une partie de ce qui faisait... l'électorat.
Excusez-moi, que vous avez soutenu.
Pour qui j'ai voté, oui.
Pour qui vous avez voté.
Pour qui j'ai voté, mais pour qui j'ai voté, et je ne le regrette pas, parce que le choix n'était pas très large. Enfin, je veux dire qu'entre Marine Le Pen et Macron, très honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de choix, enfin, pour moi, hein, en tout cas pour moi. Mais aussi parce que j'ai pensé qu'effectivement, Emmanuel Macron pouvait débloquer la société française sur un certain nombre de sujets. Et les messages de Macron sur la société française, sur l'Europe, etc., étaient des messages qui me convenaient tout à fait. Par contre, c'est vrai que je fais comme beaucoup partie des déçus, parce que sa politique, elle va quand même nettement à droite, quoi, sur le plan économique et social. Et l'erreur fondamentale sur l'impôt sur la fortune, notamment, je pense que ce qui explique aussi une partie de la situation. Donc, il faut reconstruire. Mais on parle du parti socialiste, mais regardez la droite aujourd'hui, ça ne va pas mieux, quoi. Ça va pas mieux. Les partis, on revient par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les partis politiques classiques aujourd'hui sont totalement discrédités. C'est clair. Aujourd'hui, voilà. Les gens estiment que les partis ont quelque part capté une partie de la démocratie pour leur propre intérêt, pour leur caste, pour leurs privilèges, etc., et qu'ils ne représentent plus parce qu'ils disent à peu près tous la même chose.
Parmi toutes les personnalités de la sociale, les personnalités politiques de la social-démocratie en France, de qui vous sentez-vous le plus proche ?
C'est une question piège, là. Hein.
Non, Benoît Hamon, Martine Aubry, il y a beaucoup de personnalités qui ont leurs petites différences également. Aujourd'hui, un homme, une femme dont vous vous sentez proche
Je n'ai pas spontanément la réponse, je vous le dis très clairement, parce que moi, je suis attaché à deux choses dans cet, entre guillemets, héritage social-démocrate. C'est-à-dire à la fois... des valeurs, des messages qui sont très clairs. Mais par ailleurs, la conviction que ça doit se concrétiser par un engagement concret. Et donc, la responsabilité. Et je crains que M. Hamon ait un peu oublié la culture de gouvernement et dise des choses qui ne seront pas toujours très responsables. J'apprécie beaucoup Martine Aubry, y compris pour la gestion qu'elle fait. Je pense que d'une façon générale, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de maires et d'élus locaux socialistes ou, qui sont aujourd'hui pleinement en capacité de pouvoir faire le message. Je trouve que le message qu'essaie de porter Olivier Faure, moi, me va, c'est-à-dire ce compromis hein, entre les valeurs, la responsabilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement audible. Il y a une personne dans la famille socialiste pour qui j'ai profondément de respect, c'est Bernard Cazeneuve, parce que je trouve qu'il a agi, il est resté fidèle aux valeurs, et voilà. Mais voilà, je n'ai pas de réponse spontanée.
Non, mais vous nous avez donné des noms, voilà merci.
Ouais. Continuons là-dessus. Sur quel sujet le Parti Socialiste peut revenir ? À une époque, le Parti Socialiste a porté les 35 heures. François Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait des tas de choses qui l'emmenaient avec lui, qui changeaient la société française. On a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a aucun sujet sur lequel le Parti Socialiste peut... Là, vous avez parlé de l'Europe. Effectivement, le gros problème est le nationalisme, une certaine forme de racisme, il faut le dire. Comment on a l'impression que sur ces sujets-là, vous n'avez pas de solution ?
Parce qu'aujourd'hui, que les choses soient claires, sur beaucoup de sujets, beaucoup de responsables locaux ou politiques recherchent justement des solutions. Moi, le message qui, moi, me semble essentiel aujourd'hui, c'est celui de dire que la force de la République française, c'est de faire en sorte que les uns et les autres vivent ensemble et de permettre aux uns et aux autres d'avoir les mêmes chances. Et je veux dire que moi... Ce qui a motivé toujours mon engagement politique, c'est de faire en sorte qu'un gamin, qu'il naisse et qu'il grandisse à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans un quartier particulier, il ait les mêmes chances qu'un gamin qui soit né et qui grandisse dans le centre-ville d'Orléans ou à Olivet. Et je suis au regret de vous dire que ce n'est pas vrai. Je sais très bien qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, un gamin qui va naître dans une famille en difficulté, dans un quartier, n'aura pas les mêmes chances. Et que très vite, à l'école, très vite par rapport à l'emploi, par rapport au logement, c'est pas vrai. Il n'y aura pas les mêmes. Et donc, moi, je pense que ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui, au sein du Parti Socialiste, cette idée de dignité, de responsabilité et de pouvoir redonner la chance. Alors, c'est pas évident, parce que, encore une fois, là-dessus, ça suppose d'avoir le courage sur certaines questions, de prendre des décisions difficiles. Et c'est vrai que les responsables politiques ne sont pas toujours à l'aise avec un certain nombre de choses. Ça pose la question de la carte scolaire. C'est-à-dire que voilà, les ghettos scolaires, à un moment donné, il faut qu'on s'interroge là-dessus. Ça porte la question de la dignité du logement, des conditions de vie par rapport aux familles. Ça pose la question des discriminations qui existent par rapport à l'emploi. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille sur tout cela. C'est pas évident parce que une partie de l'opinion, elle n'est pas aujourd'hui tout à fait à l'écoute de ces messages-là. Je vais vous prendre un exemple qui montre que comment c'est difficile dans la société française aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les communes, dans la grande majorité des communes, vous payez le service public en fonction de vos revenus. C'est-à-dire que vous allez à la cantine, vous allez payer 1 euro si vous avez peu de ressources, et vous allez payer 4 euros si vous avez des ressources confortables. Sans être très riche, bon voilà. Donc il y a une différence. Pareil, quand vous allez dans les centres de loisirs, quand vous allez sur un certain nombre de choses. Pour moi, c'est quelque chose de juste. C'est-à-dire qu'effectivement, on regarde la situation financière de la famille, etc. Aujourd'hui, moi je le vois, même dans une commune comme Saint-Jean-de-la-Ruelle, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui me disent « c'est pas juste, monsieur le maire ». Ils me disent « ce qui est juste, c'est que tout le monde paye pareil ». Et aujourd'hui, et même des gens qui sont des gens bien, quoi, me disent « je ne comprends pas ». Ils disent « moi, je travaille. Je n'ai pas un énorme salaire. Mon mari travaille aussi. » Je prends l'exemple d'une femme, mais ça pourrait être le contraire. On travaille. Donc, on n'a droit à rien. Nous, on paye tout. Et ils disent, oui, mais les autres qui foutent rien, parce que c'est toujours ça, eux, ils ont droit à tout. Et donc, moi, je vois, et c'est difficile hein, aujourd'hui d'expliquer aux gens, ben non, ce qui est juste, c'est qu'on regarde vos revenus et de leur dire, si la personne paye moins cher, c'est qu'elle a moins de revenus. Voilà. Et les gens disent, non, c'est pas vrai. Et vous voyez, donc, cette idée de justice, de dignité, c'est pas aussi évident que ça dans la société d'aujourd'hui, où les gens ont plutôt tendance à vouloir exclure les autres que de vouloir intégrer. Mais moi, je pense que le défi principal, pour revenir à la question, c'est quand même l'école. Je pense que c'est là où tout démarre. Et là, notre grand échec, hein, je le dis très clairement, notre grand échec, c'est sur cette question. Parce que moi, je le vis à Saint-Jean-de-la-Ruelle, mais on peut le voir ailleurs. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités aujourd'hui par rapport à l'école, à la réussite scolaire qu'aujourd'hui. Combien d'ouvriers ou de gens des familles défavorisées vont aujourd'hui dans l'enseignement supérieur ou à l'université, quoi? Voilà, c'est une réalité, quoi. C'est une réalité. Et tant qu'on ne démarrera pas par ça, à mon avis, on ne pourra pas s'en sortir.
Merci beaucoup pour vos réponses, encore une fois. Je me demandais aussi, maintenant, la distance qui s'est mise entre nous et les maires, qui s'allonge au fur et à mesure du temps. Je voulais savoir comment on devient maire, pourquoi vous l'êtes devenu, et c'est quoi votre travail, en fait, justement, pour qu'on puisse se rapprocher de vous? Et pour finir aussi, qu'est-ce que vous pensez de votre ville, Saint-Jean-de-la-Ruelle? Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Ça fait beaucoup de questions, tout ça.
Oui, tout.
Alors, j'ai la chance d'être dans une famille où l'engagement politique, c'est une réalité. Ça a toujours été une réalité. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'une famille dont une partie est originaire d'Espagne. Mes grands-parents étaient des républicains espagnols qui sont venus en France quand Franco est arrivé. Et donc voilà, déjà, ça vous donne, en termes d'engagement politique, donc déjà quelque chose. Mon grand-père était par ailleurs dans les syndicats anarchistes en Espagne au moment de la guerre civile. Donc voilà, une famille plutôt bien ancrée sur certaines valeurs. Et puis du côté de mes grands-parents et de ma grand-mère maternelle, on était plutôt communistes. Donc vous voyez, il y avait un mélange comme ça, plutôt très à gauche, quoi. Et puis, j'ai eu la chance de suivre aussi des gens de ma famille, mon oncle notamment, qui est impliqué en politique pendant longtemps dans la ville d'Ingré, donc à côté. Et puis, c'était à l'époque où le Parti Socialiste est monté. Et quand je suis devenu étudiant, tout naturellement, je me suis engagé dans le syndicat, dans les jeunes socialistes. On était dans les années 80, Mitterrand, toutes les réformes. Bon, voilà, pour un jeune à l'époque, c'était une époque formidable où tout était possible. Et puis, petit à petit, le maire à l'époque, Jean-Claude Porteau, cherchait à avoir des jeunes aussi dans son équipe. Voilà, j'étais jeune, j'étais étudiant en droit, ça fait bien. Donc voilà, et puis petit à petit, j'ai cheminé, je me suis investi, j'ai beaucoup travaillé dans la ville. Les gens m'ont estimé, m'ont respecté. Et puis quand M. Porteau a décidé de passer la main, je suis devenu maire. Donc voilà, il y a tout ce travail. Ça ne s'est pas fait en un jour. Je ne me suis pas levé un matin en disant « je vais être maire ». Et puis moi, j'ai fait de la politique activement pendant toutes ces années. C'est-à-dire à chaque élection, j'ai fait campagne pour des candidats. Si vous voulez, c'était une époque qui apparaît assez lointaine où on s'engageait dans un parti politique d'abord pour défendre des idées. Et puis c'était parfois difficile. On a fait des campagnes électorales difficiles.
Voilà, mais on n'était pas là pour avoir des postes, quoi. Et puis, il fallait du temps, il fallait militer, etc. Bon, voilà. Et donc, j'ai eu la chance, et j'ai eu beaucoup de chance, d'avoir le soutien d'élus autour de moi qui m'ont aidé à faire plein de choses à Saint-Jean-de-Marvel, qui m'ont soutenu à d'autres occasions, à des élections, y compris nationales. Donc voilà, j'ai eu cette chance de participer à la vie politique, d'avoir des mandats politiques. Mais j'ai toujours considéré que, d'abord, je n'étais pas propriétaire du mandat, et que je devais toujours rendre des comptes, c'est-à-dire que je m'efforce de dire ce que je fais, et puis d'être toujours fidèle aux valeurs qui sont les miennes. Vous savez, quand on a fait un grand projet de restructuration du quartier des Salmoneries, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, mais on l'a fait. Là, aujourd'hui, on s'attaque au quartier des Chaises, on défend un dossier très important à Paris, avec des financements très importants pour changer le quartier. Donc c'est pas des dossiers faciles, parce qu'on va démolir une partie des logements, on va reconstruire d'autres choses, on va changer le quartier. Donc voilà, pour moi, ça, c'est l'engagement concret. On redonne de la dignité de vie. Alors, par ailleurs, je le dis aussi clairement, c'est pas mon métier. Être maire, c'est pas un métier. J'ai par ailleurs un travail. Et donc, mais c'est normal. Parce qu'en France, un maire, il est là pour 6 ans. Moi, je veux pas être piégé. Et voilà, quand j'ai commencé, j'avais un âge où j'avais une famille, des enfants. Pour moi, ça a toujours été important de garder une activité professionnelle, parce que c'est de l'oxygène, quoi. Parce que quand vous êtes dans votre mairie toute la journée, à voir les mêmes personnes qui vous disent souvent beaucoup de bien autour de vous, à un moment donné, on a besoin aussi d'entendre des choses du quotidien. Et donc, voilà, le jour où je serai plus maire, je retrouverai... j'aurais pas... Si vous voulez, je connais trop de gens, y compris des gens qui ont été des amis à moi, qui, dans leur vie, n'ont fait que de la politique. Et qui sont aujourd'hui dans des situations terribles. Prenez, par exemple, un certain nombre de députés socialistes qui ont été balayés. Et moi, j'ai des copains à moi, pour qui c'était leur vie, quoi. Mais ils ont connu des périodes dramatiques l'an dernier, parce qu'ils ont tout perdu. Et moi, je suis désolé, je veux pas être l'otage de la politique. Je veux pas être là, le jour où j'aurais décidé de... Voilà, c'est terminé. Je veux pas être le piégé otage. Alors après, mon point de vue sur la ville de Saint-Jean-de-Marvel, je ne suis pas le plus objectif. Hein. C'est une ville qui est riche de sa diversité, de sa jeunesse, de ses talents. C'est une ville très dynamique. Faut être un peu, c'est un peu sportif, hein, parfois, parce que les gens chez nous, ils réagissent. Et c'est bien, et c'est normal. Ce n'est pas un village paisible où rien ne se passe jamais. Ça, je peux vous assurer que là-dessus, on est vacciné. Mais en même temps, c'est une ville où il y a des valeurs, quoi, où il y a des histoires. C'est une ville ouvrière d'origine. C'est une ville populaire où les gens sont, par principe, solidaires, où les gens sont plus tolérants quand même qu'ailleurs. Ce qui m'a toujours frappé, par exemple, c'est qu'à Saint-Jean-de-Marvel, on vote beaucoup moins pour le Front National que dans un patelin en Beauce où ils n'ont jamais vu un étranger de leur vie. Il y a des choses comme ça. Et puis, il y a des moments de convivialité. Moi, je suis fier du Grand Unisson, le plus grand festival de la métropole orléanaise. On l'a créé toute pièce. On ne dépense pas des fortunes, mais ça existe. On refait des quartiers, on essaie de faire en sorte que les gens vivent ensemble. Et puis, tout dernier point, on essaie d'entendre le message des jeunes. On a fait des belles assises en octobre dernier sur la question de la jeunesse, qui vont nous valoir un prix d'ailleurs, parce que la ville de Saint-Jean-de-Marvel va être primée la semaine prochaine du prix de l'innovation territoriale par le département du Loiret pour les assises, en disant que c'est une belle initiative innovante. Et donc voilà, alors c'est pas tous les jours de tout repos. On a parfois des déceptions, et j'en ai aussi parfois, mais je suis fier de ma ville. J'ai grandi dans cette ville, j'étais à l'école dans cette ville, j'y habite, et j'en suis fier.
Alors, concernant justement les assises de la jeunesse que vous avez mis en place, je ne pensais pas que je pouvais donner l'information. Je l'avais... Effectivement, vous allez avoir le prix de l'innovation. J'avais l'information, c'est la semaine prochaine, je crois, qu'a lieu la cérémonie officielle. Voilà. Quelles sont les suites que vous allez donner face aux nombreuses propositions que vous ont formulées les jeunes à cette occasion?
Alors, il y a eu déjà deux choses qui sont passées. D'abord, c'était un moment formidable d'échange avec les jeunes de Saint-Jean-de-Marvel, en tout cas une partie des jeunes qui sont venus, et avec un nombre énorme de propositions. Nous, finalement, on a fait le grand débat un peu avant, quoi. Et les cahiers de doléances, alors, chez nous, c'est des rouleaux de doléances, parce qu'on m'a remis des petits parchemins avec, sur chaque thème, des propositions. Et ça, ils sont dans mon bureau. Ça a donné lieu à une première réunion des élus, déjà pour voir comment on allait gérer tout ça. Et une première réunion de travail des élus en charge des différents secteurs concernés par les propositions qui a eu lieu en décembre. L'idée, c'est de faire émerger les priorités et de pouvoir, d'ici mars, annoncer les mesures qu'on va prendre à la suite des assises. On va mettre en place un comité de suivi parce qu'on souhaite aussi que pouvoir associer un certain nombre de jeunes au suivi de tout ça. Ce qui ressort aussi, alors on va décider ça en mars, mais ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont trait à la mobilité, à l'emploi, à l'éducation. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on doit bosser. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas... voilà, il y a des demandes qui sont un peu farfelues aussi, mais c'est bon, c'est normal. Hein. Quand vous lisez les cahiers de doléances des Gilets jaunes, c'est aussi farfelu, quoi. Donc voilà, bah, les jeunes, c'est pareil, quoi. C'est, voilà, c'est... Donc bah, parfois, ça part dans tous les sens. Mais on annoncera un certain nombre de mesures très concrètes au mois de mars pour donner une suite à ces assises.
Pour rester sur le même thème de la jeunesse, j'aurais une question à vous poser que j'ai posée à M. Olivier Carré, maire d'Orléans. Je l'ai posée durant le festival de la Source des Talents, qui était un festival qui avait pour but de mettre en lumière les différents talents, les jeunes de quartier. Quel est votre message pour la jeunesse? Parce qu'on dit souvent que la jeunesse est l'avenir. Alors pour vous, en tant que maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, quel est votre message pour la jeunesse?
Bah, moi, ça, ce que j'essaie d'insuffler, c'est le message de la confiance, c'est-à-dire d'essayer de dire on est là pour travailler ensemble. Et puis le message peut-être du donnant-donnant, c'est-à-dire la ville, elle est là pour appuyer, pour favoriser les conditions de la citoyenneté, de la vie en commun. Mais il faut aussi que vous vous preniez en charge un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être uniquement dans on attend que tout tombe cru, quoi. Enfin, voilà. Et je pense qu'il faut aussi qu'une voilà, une partie de nos jeunes se prennent complètement en charge. Ce qu'ils ont fait à travers les assises, hein, pour un certain nombre d'entre eux. Mais je pense qu'on a besoin aussi de jeunes qui assument complètement le fait d'abord qu'ils soient jeunes. Voilà, c'est plutôt bien. Non, mais il y a des jeunes qui n'osent pas assumer hein, le fait qu'ils soient jeunes. Ben, voilà, c'est un état voilà, et donc, d'évolution normale. Parce qu'ils sont jeunes, ils peuvent encore avoir tous les espoirs possibles. Et moi, je veux qu'ils gardent cette capacité d'espérance et qu'on essaie de jouer sur la question de la confiance. Moi, vraiment, c'est le message clé. On travaille en confiance parce que je suis conscient, comme vous, que de dire tout le temps, bah, vous êtes l'avenir. Bon, bah, oui, ça, c'est vrai. De toute façon, c'est évident. Mais moi, je dois dire qu'on doit avoir confiance. Et surtout, j'essaie de dire un truc, mais ça, je le dis plutôt aux anciens. Arrêtez de développer ces discours toujours stigmatisants sur les jeunes, quoi. Parce qu'il y a plein de jeunes qui font plein de trucs formidables. Et donc, là-dessus... voilà. Donc, on a une responsabilité collective par rapport à ça. Donc, la confiance.
Monsieur le maire, vous avez cité quelques demandes, notamment de la part des jeunes lors des assises de la jeunesse. Mobilité, emploi, vous avez dit. Il y a aussi logement. Dans certaines des... Hein, Daniel, redis-moi. Oui, il y a aussi le logement.
Alors, le lieu de vie, le quartier. Voilà, hein. Parce qu'ils y sont attachés. Et puis certains... Bah, alors, vous avez parlé justement de la réhabilitation des salles de monnerie, ouais. Des chaises, le mobilier urbain. Voilà. Ils ont formulé beaucoup de demandes, justement. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être ça que vous trouviez farfelu par rapport aux demandes de terrain de foot synthétique.
Bah non, ce n'est pas farfelu. C'est non, d'ailleurs, on vient d'en ouvrir un... Donc pour le club de foot de Saint-Jean-d'Aruel, donc on vient juste de... Non, c'est pas du tout farfelu. Non, la question, c'est comment on passe d'une idée à la concrétisation. Et moi, ce que j'ai dit, notamment par rapport à certains jeunes des salmoneries, parce que c'était ça la demande, hein, le quartier des salmoneries et prairies par rapport à un terrain de foot, c'est où on le met. C'est-à-dire que moi, je veux pas, en créant un terrain, que par ailleurs, ça déclenche tout un tas de problèmes autour. C'est-à-dire que, vu l'expérience qui est la mienne sur d'autres sujets comme ça... après on arrive à des situations où on a des occupations de l'espace public qui ne sont pas comprises par tout le monde. Quand vous jouez au ballon jusqu'à 2h du matin et que les gens veulent dormir pendant ce temps-là, voilà. Après quand vous utilisez le terrain pour faire des barbecues, pour faire etc. Donc moi je veux qu'on soit aussi conscient de ça, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se respecte. Et donc moi mon rôle il est de veiller à ce que en répondant à une demande, on ne va pas par ailleurs générer d'autres problèmes encore plus importants. Et c'est ça qu'il faut gérer.
Alors, je voulais...
pardon, dernière chose. Moi, je me méfie beaucoup aussi du système de la consommation, quoi. La mairie, ce n'est pas McDo, quoi. Ce n'est pas on appuie sur un bouton en disant « je veux un terrain hippique, je veux un terrain de foot, je veux ça ». Ce n'est pas ça la règle, quoi. C'est un peu plus large. Hein. Ce n'est pas la consommation.
Certains habitants des chaises demandent pourtant des logements plus salubres. Et ils ont raison. Le 8 janvier dernier, des habitants aux chaises ont vu un ascenseur s'effondrer sur la tête. Alors, ma question, c'était... Quel est votre rôle en tant que maire? Parce que dans cette histoire, on a appris qu'il y avait les bailleurs également. Comment vous intervenez, vous, concrètement pour les gens, sans passer par des bailleurs?
Non, mais là-dessus, d'abord, qu'il faille réhabiliter, par exemple, tous les logements collectifs, les immeubles des chaises, c'est évident. Et c'est d'ailleurs au cœur du projet qu'on a proposé à l'ANRU. Tout va être réhabilité pendant 4-5 ans, entièrement. Et avec une réhabilitation, avec un niveau de confort thermique qui va faire que comme là-bas, c'est du chauffage électrique et qu'on va passer à un autre type de chauffage, en utilisant notamment l'usine biomasse qui est là à Orléans, la facture d'électricité pour chaque ménage, chaque foyer, va diminuer d'à peu près 300 euros par an. Et quand on sait qu'on est sur des familles très modestes, ça va être un impact énorme. Tous les logements vont être faits. D'autres vont être démolis. Donc là-dessus, ils ont raison. Il faut se battre pour la dignité du logement. C'est évident. Il faut se battre aussi pour la sécurité. Parce qu'il se passe des choses dans les halls d'immeubles qui ne sont pas acceptables, hein, en termes de rassemblement, en termes de consommation de drogue, etc. Et puis, par rapport à ce que vous évoquez sur l'immeuble, d'abord, c'est pas l'ascenseur qui s'effondrait. Hein. C'est une plaque qui est située sur le plafond. Mais pour avoir vu le bailleur Valogis... Pourquoi il est tombé? Il est tombé parce qu'il y a eu du vandalisme. Et il est tombé parce qu'on l'a abîmé et parce qu'il faut être aussi conscient que parfois, c'est des endroits où on planque de la drogue. Donc voilà, vous savez, je ne cache pas les choses, je le dis telles qu'elles sont. Donc ce qui s'est passé n'est pas acceptable. D'ailleurs, le bailleur est conscient, il a tout de suite réagi. Et je veux saluer aussi la réactivité de la CNL, par exemple, hein, parce qu'ils voilà, font leur boulot, hein, ils défendent les locataires. Et ils ont raison. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne s'est pas effondré par hasard. Donc voilà, moi, mon rôle aussi, il est de veiller à tout ça. Mais le point de départ, c'est qu'il faut que les gens, quel que soit leur quartier, quelles que soient leurs conditions, ils aient des conditions de vie dignes et sûres. Et là-dessus, je veux continuer à me battre. C'est en cela où moi, je considère que je suis encore socialiste, quoi.
Toujours sur le thème de la jeunesse, et puisqu'on parlait du quartier des chaises, pendant les assises de la jeunesse, par exemple, ils l'ont manifesté, puis j'ai rencontré pas mal de jeunes dans la rue, beaucoup ont manifesté un sentiment d'abandon. Alors, ça existe à Saint-Jean-de-la-Ruelle, pas seulement à Saint-Jean-de-la-Ruelle, mais puisque vous êtes maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, vous allez pouvoir nous donner votre analyse. Un sentiment d'abandon, d'une part, de la prise en charge sociale par rapport aux infrastructures, par rapport aux animateurs, éducateurs qui peuvent manquer sur le quartier. D'ailleurs, je crois qu'il y a des choses qui vont changer à Saint-Jean-de-la-Ruelle bientôt par rapport à ça. Et puis, un sentiment de persécution, par contre, par rapport aux forces de l'ordre, donc des jeux de chat et souris auxquels on peut assister en plein jour, hein, des fois, une défiance de la jeunesse vis-à-vis de la police, et puis aussi une forme de persécution de la police envers les jeunes, notamment avec les arrêtés anti-bivouac. C'est ce qu'ils disent, une sécurité qui ne sert à rien, en fait. Et c'est ce qu'on peut, justement, vous le disiez avec cette histoire de trafic de drogue qui persiste.
Ah oui, c'est une réalité.
Et qui est symptomatique aussi d'une pauvreté.
Qu'est-ce qui explique en partie cette situation compliquée sur un quartier comme celui des chaises? Qu'est-ce qui pourrit un certain nombre de choses? C'est la drogue, quoi. Enfin, faut pas se cacher. Alors, c'est pas propre aux chaises. Et c'est pas propre aux quartiers populaires. Alors, la drogue, il y en a aussi dans tous les quartiers, quoi. Et puis, ceux qui consomment, ils viennent de partout, quoi. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a du trafic et que ça pourrit les choses. L'arrêté anti-bivouac, c'est ça. C'est d'éviter qu'à un moment donné, stagne devant des commerces, des gens, toute l'après-midi, tard le soir, dans leur voiture, à l'extérieur, avec de la musique, en se fumant, etc. Et qui, d'une façon ou d'une autre, font peur. Et c'est-à-dire... qu'aujourd'hui, ce que me disent une partie des commerçants des chaises, c'est que leurs clients ne vont plus parce qu'ils ont peur. Voilà, ils sont devant tous ces attroupements, ils ont peur. Voilà, et puis on sait très bien qu'il y a des troupes. Alors, moi, je veux bien qu'on dise que c'est de la persécution, mais très honnêtement, et parfois dans le dialogue difficile, si on peut appeler ça dialogue, moi, j'essaie de comprendre pourquoi on est dans sa voiture toute une après-midi, là, en train de fumer, à regarder des téléphones portables, enfin, je ne sais pas, ou même tard le soir, parfois avec des personnes qui sont des jeunes adultes, parfois des adultes, parfois qui sont parents, Moi, il y a un type qui me dit, mais moi, j'ai, voilà, mes enfants, ben, je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas avec vos enfants quoi, à 21h, plutôt que d'être dans une bagnole en train de fumer, dans la vie, il y a peut-être autre chose à faire. Donc,
il pourrait vous répondre, c'est ma liberté d'être là.
Oui, d'accord, sauf que la liberté commence là où ça n'empiète pas celle des autres. Et très honnêtement, à partir du moment où ça empêche beaucoup d'autres citoyens de se sentir en sécurité, il faut agir. Par ailleurs, moi, je veux récuser quelque chose sur le terme de l'abandon. Dans ce quartier, il y a une mobilisation énorme des moyens publics. Il y a des magnifiques structures de quartier, de très belles équipes, notamment à la Maison pour tous. Les services publics sont présents. Il y a un soutien social important par les équipes du département. On vient d'y implanter, nous, tout le pôle petite enfance de la ville. On travaille sur une maison des services au public. On se bat pour que la Poste, qui est sourde à nos appels, mette un distributeur bancaire. Donc, on essaie de faire revivre aussi ce quartier. On veut refaire l'école, etc. Donc, c'est vrai que le message passe par toujours. Mais ce que je veux dire aussi, et que chacun comprenne, c'est que moi, qu'est-ce que me disent les autres citoyens de la ville qui ne sont pas dans ce quartier? Ils me disent, mais monsieur le maire, moi, j'en ai marre qu'on paye tout le temps pour les mêmes. Parce que pendant ce temps-là, vous dites que vous n'avez pas d'argent pour faire telle rue ou faire un machin, et pendant ce temps-là, vous dépensez de l'argent pour tous ces gens-là. Si vous voulez, c'est aussi, il faut comprendre ça, à un moment donné, que dans une commune, comme dans une nation, il faut faire des compromis, il faut que chacun se sente à l'aise. Je termine en disant qu'effectivement, je pense que on a quand même eu sur ce quartier l'impact d'une décision qui est une décision vraiment négative, hein, qui était celle de l'arrêt de la prévention spécialisée, c'est-à-dire très concrètement d'éducateurs spécialisés sur l'ensemble de nos quartiers. Le département, il y a 3 ans, l'a supprimé. Moi, j'étais un des seuls à voter contre la mesure à l'époque parce que je savais ce que ça allait avoir comme conséquence. Et aujourd'hui, je suis heureux qu'avec la métropole, nous remettions en place un système qui, pour l'instant, va être dans 4 communes, Orléans, Saint-Jean-de-la-Ravelle, Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais, et le retour, notamment à Saint-Jean-de-la-Ravelle, de 2 éducateurs sur un secteur qui va regrouper Saint-Jean-de-la-Ravelle et Orléans-Nord, les Blossières. Donc voilà, parce que c'est nécessaire. Il y a des gens qui sont dans la grande difficulté, en détresse. Il y a des vrais problèmes sociaux. Et donc, moi, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein.
Oui, oui.
Il y a des vrais problèmes sociaux. Donc, voilà, l'abandon, non.
Mais c'est justement de ces éducateurs dont parlaient les jeunes, qu'ils ne voyaient plus.
Eh bien, ils vont revenir.
Eh bien, voilà, ils ont été attendus, hein,
croyez-moi. Et je pense qu'effectivement, on a collectivement une grande responsabilité d'avoir abandonné ce système, même si moi, j'ai voté contre. Mais très honnêtement, je pense que c'est une erreur fondamentale d'avoir déserté ces quartiers.
Oui, bien sûr. Alors, vous, il y a un moment, les limites de votre pouvoir, elles sont aussi celles de la politique, j'allais dire, nationale, régionale et départementale, en l'occurrence concernant la prévention spécialisée, qui est une compétence départementale. Et enfin, heureusement, voilà, ça va changer. Et aussi la question de la métropole. Qu'est-ce que vous pensez de la métropolisation des grandes communautés urbaines, comme Orléans maintenant? Vous le disiez tout à l'heure, par exemple, le festival Grand Unisson est maintenant estampillé métropole. Ça, c'est un avantage pour vous, si on veut, même si ça reste à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Mais concernant, par exemple, l'aménagement du terrain des Grous, j'avais lu que vous aviez appris par la presse son aménagement sans avoir été concerté. Votre regard, vous, sur
la métropole. Sur les Grous, c'est pas tout à fait ça. C'est l'implantation de l'usine biomasse.
Voilà. Oui, voilà.
C'est pas tout le quartier. Hein. Non, c'est l'implantation de l'usine biomasse. Mais
il est à 50-50 quand même, moitié Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Oui, le quartier des Grous. Non, mais sur la métropole, là, moi, je dois dire que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Et grâce à l'engagement de tous les maires, et notamment du maire d'Orléans, qui est le président de la métropole, Olivier Carré, ça se passe bien aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Hein, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ça se passe mieux. Mais là aussi, ça se passe mieux. On travaille ensemble. Mais je constate que pour certains citoyens, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que ce qui relevait d'une décision proche du niveau de la mairie, ils ont le sentiment qu'on renvoie plus haut, que c'est plus compliqué et plus difficile. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte que le message de la métropole, il porte pas toujours pour tous les citoyens. Parce qu'ils ont le sentiment qu'on renvoie les problèmes plus loin avec des gens qu'ils n'identifient pas. Mais globalement, ça se passe bien entre nous. Hein. Enfin, je veux dire, on travaille bien. Hein. Et sur les Grous, ça avance. Voilà, sur tous les dossiers, ça avance.
Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu à notre invitation. Ah non, excuse-moi, ça n'est une dernière question.
Une dernière question, si vous pouvez être... bref, vous avez rappelé tout à l'heure, hein, vous ne faites pas de la politique. Votre métier, c'est de travailler pour une association européenne, notamment, à une époque. Les prochaines élections européennes, et vous l'avez évoqué également, ce qui se passe en Europe est assez flippant. Si je dois prendre un terme de jeune, comment on fait pour s'en sortir? C'est-à-dire que là, on ne voit pas du tout comment on pourrait revenir à quelque chose de j'allais dire, pour une Europe où on a envie d'y vivre, quoi, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible de faire une Europe comme celle que...
Écoutez, moi d'abord, très honnêtement, il y a une échéance essentielle qui est les élections au Parlement européen. Et moi aussi, je suis assez inquiet, parce que quand on voit tout ce qui se passe dans les pays européens aujourd'hui... Mais dans le même temps, moi, je reste profondément européen. Et je dis aux jeunes, notamment, mais pas seulement, regardez ce qui se passe en Angleterre. On a fait croire aux gens qu'en sortant de l'Europe, on allait régler leur situation. Deux ans après, ils sont même plus certains aujourd'hui de pouvoir sortir de l'Europe. Alors tous ceux qui nous racontent des discours sur l'Europe, c'est la faute, c'est la cause de tous les maux, que tout va mal à cause de l'Europe, etc. Ben regardez ce qui se passe en Angleterre concrètement, et puis tirez-en quelques leçons. Et je dis la seule solution qui est par rapport à cela, parce que moi je suis attaché à la démocratie, et ben c'est aller voter, nom d'un chien. Parce que si vous n'êtes pas content, exprimez votre vote. Après, vous choisissez ce que vous voulez, mais au moins allez voter, quoi. Et puis prenez votre destin en main. Voilà. Il faut que les gens se prennent en main.
Merci, Monsieur Chailloux, d'avoir répondu à l'invitation du Bondi Bloc Centre, parce qu'on a pu donc aborder beaucoup de questions d'actualité. On a commencé par le mouvement social des Gilets jaunes. Vous avez également expliqué la place du maire dans la démocratie, dans la ville. Vous êtes revenu aussi sur votre conception de la social-démocratie, de ce qu'elle est aujourd'hui, des enjeux pour demain. Vous avez évoqué, alors ça c'est une petite parenthèse, vos origines familiales. Moi je retiendrai que vous aviez un grand-père espagnol anarchiste. C'est pas rien, ça aide, je pense, pour construire une...
Et une grand-mère communiste, alors, oui.
D'accord, très bien. Et puis, on a pris pas mal de temps, je trouve, et c'est tant mieux, pour parler de la vie des quartiers, de la métropole, et puis vous avez largement manifesté votre amour pour l'Europe.
Merci à Hassan Kerim, journaliste du Bondi Blog Centre, pour vos questions. Merci à Chadra Kilanga et Dylan Millet pour vos questions, qui sont représentants de l'association For You. Et merci à vous, monsieur le maire, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondi Blog Centre. www.bondibloccentre.fr.
Bondi Blog Café.
Bondi Bloc Centre.
Bondi Bloc Café.
Rejoins la rédaction.
3W.